Merci Léa pour ce temps d'introduction. J'ai beaucoup apprécié ce temps où nous avons vraiment loué le Seigneur notre Dieu dans la simplicité. Et Léa nous a rappelé, c'est vrai, la semaine dernière nous avons eu une grande fête. Nous avons eu cette fête en honneur de notre 40e anniversaire. C'était un moment de grâce, de reconnaissance pour ce que le Seigneur avait fait pour notre Église. Et ce qui m'a touché particulièrement la semaine dernière, c'était le témoignage de toutes ces personnes qui sont passées par là, qui se sont investies pour le Seigneur. Et il y a eu beaucoup de témoignages, des dinosaures, n'est-ce pas, hein? Et le témoignage qui m'a particulièrement touché, c'était le témoignage de David, le premier pasteur implanteur de cette église de Vendeuvre, qui nous a partagé la souffrance qu'il a dû traverser. Il a commencé tout de suite le ministère et, pam, il perd sa femme en laissant les enfants derrière lui, derrière elle. Il devait assumer tout cela, l'église, les enfants, le travail. Et ensuite, cette nouvelle s'est répandue dans le monde entier, et beaucoup de gens ont commencé à prier pour cette église. Nous avons reçu, cette église a reçu beaucoup de prières. C'est pas juste une église comme ça. Il faut pas juste se dire maintenant que oui, nous avons passé 40 ans, c'est vrai, c'est un chiffre symbolique, mais est-ce qu'il faut se contenter de la grâce reçue dans le passé? Je ne pense pas. Bien sûr, il faut remercier, il faut être reconnaissant de ce que le Seigneur a fait, mais notre regard doit porter vers l'avant, vers ce que le Seigneur va réserver encore pour chacun d'entre nous. Je repense un peu les Israélites. Pendant 40 années, ils ont erré dans le désert. Ils ont cherché à atteindre la terre promise par le Seigneur. Et quand ils sont arrivés sur la terre promise, ah, c'était pas simple non plus, parce qu'il y avait des habitants, il fallait conquérir, il fallait se batailler. Et puis lorsqu'ils ont reçu, ils ont conquis la terre, bah c'était pas fini non plus, il y avait toujours des choses à faire. Après Moïse, il y avait Josué. Après Josué, il y avait encore des juges qui ont gouverné avec le Seigneur. Et ce matin, j'aimerais vous partager un personnage qui est le premier juge. J'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible dans les Juges, chapitre 2. Juges, chapitre 2, versets 1 à 7. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit : Je vous ai fait monter hors d'Égypte. Je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Voilà un peu le contexte où commence la période des juges. On était encore à l'époque où Josué était le chef du peuple. Josué avait commencé la conquête de la terre promise avec son peuple. Et là, durant le ministère de Josué, un envoyé du Seigneur vient vers son peuple en leur disant, mais je vous ai amené, je vous ai fait sortir du pays d'Égypte, de l'esclavage, et puis sachez que je ne romprai jamais mon alliance avec vous. Et vous, au verset 2, vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Il ne faut pas faire des compromis avec les gens de ce monde, c'est ça en fait. Mais l'envoyé de l'Éternel continue, vous n'avez point obéi à ma voix. C'est-à-dire, ils ont fait des compromis avec les gens. Ils ont suivi même leur voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, ces Cananéens, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. C'est à l'époque de Josué. À l'époque de Josué, les gens, lorsqu'ils ont entendu la parole de Dieu, ils se sont repentis. Ils ont demandé pardon. Ils ont pleuré. Et même au verset 5, ils ont offert des sacrifices à l'Éternel pour demander pardon. Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Au verset 7, le pays servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué. Il y a eu des péripéties. Il y a eu beaucoup de... un certain moment, le peuple ont fait des compromis avec les gens du Cananéen. Mais après cet avertissement, ils se sont retournés vers le Seigneur. Ils ont retourné leur regard vers le Seigneur pour demander pardon, mais aussi surtout pour servir seulement leur Dieu, notre Dieu, qui est le Créateur de tout l'univers. Et il est dit, pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué, et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Voilà, après Josué, il y a eu maintenant on arrive à le temps des juges. C'est le temps des juges où ils essaient quand même de servir l'Éternel, mais en même temps, il y a toujours les Cananéens qui sont autour d'eux. Et là, il apparaît un nouveau juge, enfin le premier juge, qui s'appelle Othoniel. Othoniel. Hein, donc, rappelez-vous, si on vous dit, mais qui est le premier juge, c'est Othoniel. C'est un nom un peu difficile à apprendre. Je dois souvent me souvenir de ce nom, parce que j'arrive pas à retenir ce nom. Alors, qui était Othoniel? On voit dans les versets suivants qu'il n'était pas n'importe qui. Il était le neveu de Caleb. Vous savez qui c'est Caleb? Josué et Caleb, les deux espions qui a rapporté, après avoir scrutiné le pays, la terre promise, qui a rapporté leur parcours fidèlement et qui ont vu aussi la volonté de Dieu à travers leur rapport. Caleb, oui, c'est un homme de Dieu. C'est un homme qui voyait la volonté de Dieu. Un homme qui connaissait la volonté de Dieu. Et Othoniel était son neveu. Caleb qui avait une grande foi en Dieu, parce qu'il a vraiment exprimé, malgré leur petitesse, il avait la foi pour conquérir cette terre promise avec l'aide du Seigneur. Ce Caleb connaissait bien la parole. Je pense qu'il a dû vivre une vie obéissante à la parole de Dieu et donc mettre en pratique certaines paroles, comme dans Deutéronome 6, où il est dit « Ces paroles que je te commande aujourd'hui seront sur ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils. Et tu en parleras quand tu seras assis, quand tu marcheras, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. » Cette parole, je pense que Caleb a pratiqué auprès des siens, non seulement à ses enfants, mais aussi, je pense, à Othoniel, qui était tout proche. C'était le neveu, c'est-à-dire c'est le fils de son jeune frère. Et sûrement, Caleb, qui était le chef de sa tribu, leur a dû parler le bon pays qu'il avait visité, du merveilleux fruit qu'il a dû rapporter. Jour après jour, ils ont dû voir le peuple, enfin son tribu a dû voir fidèlement comment Caleb a marché jusqu'à maintenant. Et là, Caleb et Josué est le seul qui a traversé les 40 ans du début de l'histoire, vivant, qui a traversé les 40 ans. Et malgré son âge avancé, il était toujours désireux d'entrer en pleine possession du pays. Pourquoi? Parce qu'il savait que la volonté de Dieu, c'est la conquête complète. de la terre promise. Il avait vraiment cette volonté d'accomplir la parole de Dieu. Et puis, Caleb était attristé. Pourquoi attristé? Parce que il y avait un certain père qui s'appelle Kiriath Sefer, ce qui signifie la ville des lions, n'était pas encore conquis. Kiriath Sefer veut dire quoi? Je disais que c'est la ville des lions. Cela donne une certaine image d'une puissance humaine étrangère. Cette ville était forte. Cette ville était sûrement gardée par des gens assez costauds et donc difficiles à conquérir. Et c'est pour ça que Caleb promet de donner à celui qui prendra cette terre sa fille Aksa. Othniel, sûrement amoureuse peut-être de Aksa, et aussi, surtout, il avait vraiment le même avis que Caleb, c'est-à-dire accomplir la volonté de Dieu, conquérir toute la terre que Dieu a promis pour son peuple. Il avait désiré d'épouser Aksa, mais aussi posséder une part de l'héritage promis, qui était vraiment précieux à ses yeux. Sa foi en Dieu et son amour pour Aksa expliquent son courage, et finalement, il va vaincre les ennemis, l'adversaire, et obtient la victoire sur Kiriath Sefer. Il reçoit alors tout ce qu'il a désiré. On voit dans la parole, dans 1 Timothée 3, qu'un enfant de Dieu peut avoir de bons désirs. Et c'est normal d'avoir ce genre de désir selon la volonté de Dieu. On arrive au chapitre 3. Juges chapitre 3. Et là, quelques années ont passé. La génération a changé. Il y avait cette nouvelle génération qui n'a pas connu les guerres de Canaan. Éternel laisse toujours les cinq pays autour d'Israël. Et qu'est-ce qui se passe? Les Israélites, les jeunes Israélites qui n'ont pas connu cette guerre de Canaan font des mariages mixtes. Et non seulement ils se marient avec les Cananéens ou Cananéennes, mais ils suivent aussi de l'idolâtrie. Ils ont abandonné leur Dieu. Alors que ceux qui ont suivi, comment, qui ont connu cette guerre de Canaan, ils ont goûté la grâce de Dieu. Ils ont vu comment Dieu a agi pendant ces 40 années. Mais ces nouvelles générations ont oublié l'Éternel. Dans verset 5, chapitre 3, verset 5, je vous lis jusqu'au verset 7. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles, et ils servirent leur Dieu. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, ils oublièrent l'Éternel, et ils servirent les Baals et les idoles. Voilà ce qui se passe. C'est pour ça d'ailleurs, nous, moi en tout cas, en tant que pasteur, j'essaie d'encourager les chrétiens d'épouser les autres chrétiens. Parce que, vous savez, il est plus facile, parce que souvent, quand je rencontre les jeunes qui sont tellement amoureux des gens qui ne sont pas chrétiens, et ils me disent, mais tu sais, je pourrais les convertir. C'est aussi une solution. Pourquoi pas? Peut-être que c'est la volonté de Dieu que je me marie avec cette fille ou ce garçon pour que je les amène vers le Seigneur. Pourquoi pas? Et je leur dis toujours, vous savez, bien sûr, Dieu est bon. Dieu est puissant. Il peut faire n'importe quoi. Il peut vraiment, oui, transformer le cœur. C'est lui qui transforme, c'est pas nous. Par contre, sachez que il est plus facile de tirer vers le bas que vers le haut. Et que, d'après mes expériences, tous les couples mixtes que j'ai vus, ils ont souvent été, ou plutôt leur foi a affaibli, ou foi abandonnée, a été abandonnée. C'est rare de voir des gens, des couples mixtes, qui finalement se convertissent ensemble. C'est très très rare. Ma sœur s'est mariée avec un athée convaincu. Et donc je lui ai dit avant, chère sœur, que j'aime à la folie, enfin pas à la folie, mais voilà, j'aime quand même. Chère sœur, elle s'appelle Eugène. Eugène, mais tu te rends compte? Tu veux te marier avec un non-chrétien, etc., etc., enfin voilà, comme un grand frère qui... Et finalement, elle était certaine. C'est vrai. C'est une exception. Dans le sens où sa foi n'a pas affaibli. Au contraire, elle aime tellement le Seigneur. Quand je vois ma sœur, j'ai l'impression de voir Léa. Donc si vous voyez Léa, c'est, vous verrez ma sœur. Voilà, ma sœur, elle est comme ça, comme Léa. C'est-à-dire, tout feu, tout flamme pour le Seigneur. Toujours en train de prier, en train de m'exhorter. Enfin, voilà. Et cette sœur, enfin ma sœur, continue, enfin, arrive à parler de Dieu tous les jours à son mari. À son mari, qui est athée. Et elle l'importune tellement que... elle lui lit la Bible tous les jours. Tous les jours. Et apparemment, lorsqu'elle oublie, il la sollicite pour qu'elle lise la Bible. Parce qu'elle est convaincue que la foi vient de ce que l'on entend, et de ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Et donc, elle raconte toujours cette histoire. Elle raconte l'histoire de l'église, l'histoire de tout ce qui se passe, même au sein de l'église locale. Et il est interpellé, il est intéressé, etc. Et puis j'ai l'impression, en tout cas, enfin, d'ailleurs il était déjà venu ici une fois, j'ai l'impression que ça change, il y a un changement. Mais je vous assure, c'est rare. C'est rare de voir ce genre de couple. En général, c'est l'inverse. Soit on abandonne, parce que le monde est plus attirant. Parce qu'il y a le plaisir charnel. C'est plus facile d'abandonner la foi. En tout cas, enfin, je reviens encore à cette histoire. Hein. Les enfants d'Israël ont fait des compromis, ils se sont mariés, mais ils ont oublié l'Éternel suite à des mariages mixtes. Suite à des mariages mixtes. La conséquence de ce péché était la punition de Dieu. Au verset 8, la colère de l'Éternel s'enflamma contre l'Israël et il les vendit entre les mains de Cushan Rishathaïm, roi de Mésopotamie, et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cushan Rishathaïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. Pendant 8 ans, ils ont été asservis par le roi de Mésopotamie, par les Cananéens, par les étrangers. Ils ont été persécutés, ils ont connu l'injustice, ils ont connu... Vous avez qu'à penser un petit peu les Français sous l'occupation allemande. Hein? Voilà. Il n'y avait pas de liberté totale. Et donc, ils étaient martyrisés. Et devant cette épreuve, là, ils se sont dit, mais qu'est-ce que nous avons fait? Pourquoi nous avons abandonné notre Dieu? Et ils se sont repentis, ils ont crié au Seigneur. Seigneur, oui, nous t'avions abandonné, maintenant, viens au secours. Viens au secours. Ils ont crié à l'Éternel. À ce moment-là, Dieu les a écoutés. Il a envoyé un libérateur, Othniel. Othniel, alors, il y a encore une explication sur ce personnage au verset 10. Qui était Othniel? L'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Voilà, un renseignement très intéressant. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui, il devint juge en Israël, et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan Rishathaïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre ce pays. L'esprit de l'Éternel était sur Othniel. Qu'est-ce que ça veut dire, l'esprit de l'Éternel? Vous savez, l'esprit en hébreu, c'est roura. Roura voulait dire à l'origine souffle, vent. Une personne vit, elle respire. Cet souffle était en lui. Ce souffle de Dieu était en lui. L'esprit de l'Éternel était aussi à l'œuvre pendant la création. L'origine de toute vie est maintenue. Enfin, maintient cette vie. Cet esprit est puissante. D'ailleurs, dans Job 34, il est dit, si Dieu retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair expirerait ensemble et l'homme retournerait à la poussière. L'esprit est puissant. Cette puissance de Dieu était en lui. Et puis, avec cette intelligence que Dieu a permis à travers son esprit, il pouvait avoir une sagesse qui vient d'en haut pour voir ce qui était juste, ce qui était injuste. Ce qui était la volonté de Dieu, ce qui n'était pas la volonté de Dieu. Cet esprit aussi lui a donné la conscience pour se repentir. C'est la conscience pour être apte selon la parole de Dieu. D'ailleurs, vous connaissez David, l'homme selon le cœur de Dieu. David, lorsqu'il avait péché, il avait peur que Dieu retire cet esprit. Hein? Cet esprit est tellement puissant, tellement généreux, tellement utile pour notre vie chrétienne. Voilà, cet esprit était sur Othniel, le serviteur de Dieu, qui était toujours à l'écoute, qui voulait vraiment connaître la volonté de Dieu. Là, je parlais un petit peu de l'esprit de Dieu à l'époque de l'Ancien Testament. Dieu nous avait toujours, aujourd'hui, nous qui vivons à l'époque du Nouveau Testament, d'être remplis de l'esprit de Dieu. Cet esprit que nous recevons aujourd'hui est incomparable avec l'esprit de Dieu qui s'est manifesté à l'époque de l'Ancien Testament. Il y a une différence. Cet esprit de Dieu a été promis par Jésus lui-même. Dans Jean 14, il est dit, « Moi, je ferai la demande au Père et il vous donnera un autre consolateur pour être avec vous éternellement. » Cet esprit reste éternellement. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Dieu, Jésus, a promis cet esprit de Dieu et ça a été accordé depuis la Pentecôte. Le ciel est maintenant ouvert et à ceux qui demandent cet esprit est accordé abondamment et de manière éternelle. Entre parenthèses, les musulmans disent que le consolateur que Dieu enverra, c'est Mohammed. Hein? Mais vous savez que dans cette parole, il est bien dit. Il est bien dit. Hein? C'est pas Mohammed, le consolateur que Dieu a promis. Il est bien dit dans la parole de Dieu, un autre consolateur pour être avec vous éternellement. Ce consolateur reste avec nous éternellement. Et c'est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Ce n'est pas un esprit lointain, un esprit de Dieu lointain. Cet esprit de Dieu reste près de nous, en nous. Il demeure en nous. Et cet esprit de Dieu aussi nous parle pour nous guider vers le droit chemin. Dans Romains 8, il est dit aussi que ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. La vie et la paix. Cet esprit de Dieu apporte la vie éternelle, mais aussi la paix intérieure, la paix avec le Seigneur, parce que Dieu nous a réconciliés. Nous avons maintenant obtenu cette paix avec Dieu le Père et aussi Dieu avec notre prochain aussi. D'ailleurs, verset 11, chapitre 3, verset 11, il est dit, le pays fut en repos, le pays était en paix pendant 40 ans quand Othniel était juge, leader, le leader spirituel. de ce pays. En ce moment, on écoute beaucoup de bruits de guerre, plutôt que la paix, n'est-ce pas? Encore cette semaine, à chaque fois quand je monte en voiture, j'allume automatiquement la radio, et tout ce que j'entends, c'est, voilà, le bruit de guerre, surtout en Syrie. En ce moment, c'est Bachar al-Assad qui frappe sur Alep, mené par, par son armée. Puis la ville est bombardée, apparemment 150 bombes par jour. C'est énorme. Ils essaient aussi des nouvelles armes contre ces gens qui sont à Alep. Soi-disant, ce sont des terroristes, mais parmi les terroristes, il y a aussi des civils. Les civils, en plus d'être victimes d'enlèvements et de meurtres par ces gens, ils subissent désormais aussi les bombardements et les échanges de tirs. Voilà le bruit de guerre qui est concerné par tout le monde. Ce n'est pas juste en Syrie que ça se passe. Vous voyez bien que cette guerre est aussi dans notre pays, par le terrorisme aussi. Et nous voyons bien aussi que, vous connaissez un peu l'enjeu, c'est la guerre entre les musulmans chiites et les musulmans sunnites, en fait, qui a pris des proportions énormes. Et que derrière la haine, cette haine interreligieuse, il y a une série de confrontations géopolitiques entre les pays du Golfe, l'Iran qui est plutôt chiite, et puis l'Occident qui doit savoir, qui doit prendre position parfois, selon pour les sunnites, parfois pour les chiites. C'est assez compliqué, etc. Pourquoi il y a autant de bruit de guerre dans le monde? Pourquoi la paix ne règne pas dans notre monde? On peut se poser des questions. Si Dieu existe, pourquoi il n'y a pas de paix? Des nations sont en guerre, la guerre civile ensanglante bien des pays, la sécurité ne règne pas dans nos quartiers même, parce que le terrorisme est venu aussi dans notre pays, ni dans les rues de nos villes. Pourquoi? Il y a la tension, les disputes, au niveau national, mais aussi au niveau familial. Nous voyons aussi des conflits familiaux. Pourquoi? Les vraies raisons, c'est que la paix n'est pas dans le cœur de l'homme, proprement dit. Si la paix n'est pas dans chaque être humain, comment s'attendre à une paix collective dans la famille, dans le quartier, dans les nations? Il faut avant tout que chaque personne puisse vivre avec cette paix réelle et durable dans chaque cœur. Y a-t-il un remède, une solution? Je dirais que, bien sûr, c'est Dieu, Jésus, qui nous accorde cette paix devant cette situation catastrophique. Dans 2 Timothée 3, il est dit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui est en fait la force. Éloigne-toi de ces gens. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est ce que Paul nous recommande. Pourquoi il y a autant de guerres? D'ailleurs, c'est pour ça que Dieu nous invite à prier pour nos autorités. Dans 1 Timothée 2, il est dit: j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Autrement dit, prions pour les autorités, prions pour ceux qui nous gouvernent, prions pour le président des États-Unis, de la Russie, pour qu'ils aient une certaine intelligence, une sagesse, pour trouver une solution. Prions pour que nous puissions avoir cette paix dans notre vie, concrètement. D'ailleurs, c'est pour ça, d'ailleurs, quand j'organise une réunion de prière, à chaque fois, j'invite au groupe de prière de faire une prière en faveur de tous ces gens qui nous gouvernent, les autorités. Non seulement, bien sûr, le président Hollande, mais aussi pour le maire de Vendeuvre, pour, en tout cas, les gens qui ont la prise de décision pour notre vie quotidienne, pour que le Seigneur leur inspire. C'est important de prier pour ceux qui gouvernent. Cet Esprit de Dieu permet en tout cas d'avoir cette paix intérieure. Mais aussi cette paix en ayant cette espérance. L'évangile de Jésus est un évangile de paix. Jésus est appelé d'ailleurs le prince de paix. Et il est venu pour communiquer, pour apporter cette paix pour chacun d'entre nous, que nous puissions vraiment tout simplement voir l'œuvre de Dieu acceptée pour avancer. J'aimerais conclure. On a vu dès le premier verset qu'il est important, bien sûr, de ne pas se contenter de notre 40 ans d'expérience avec cette église de Vendeuvre, mais il est important d'avancer, de voir la volonté de Dieu, d'avancer comme le peuple de Dieu a fait au moment après les 40 années d'errance dans le désert. Et puis on a vu le personnage, Othniel, le premier juge, qui était très intéressant parce que il avait reçu, je pense, une bonne éducation de la part de ses aînés, en tout cas, et que Caleb avait montré un bon témoignage. Et c'est ce que le Seigneur nous souhaite aussi, que nous, en tant que lumière, que nous soyons vraiment des bons témoins du Christ, que nous soyons des vrais disciples, afin que lorsque les gens nous voient, puissent voir aussi Dieu en œuvre. Je vous ai aussi parlé de ce personnage Othniel qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Il avait une communion toujours avec le Seigneur, il demeurait en lui. Et Dieu demeurait en lui aussi. Il était dirigé par cet Esprit de Dieu. Il désirait d'accomplir la volonté de Dieu. Il connaissait la volonté de Dieu à travers cet Esprit. Et ce personnage a aussi, à la fin, apporté la paix dans son pays, dans ses proches. Que nous puissions être un instrument de paix aussi pour ma famille, pour mes amis, pour mon voisin, ma voisine. Un instrument de paix pour des ennemis aussi qui nous détestent. Parfois, vous savez, rien parce que nous sommes chrétiens, nous pouvons être persécutés, mais Dieu nous demande de prier en leur faveur, apporter la paix, s'il est possible en tout cas. Que le Seigneur nous bénisse et que continue à cheminer avec nous encore 40 ans. Dans la bénédiction, dans la joie et surtout dans l'amour. Dans l'amour. Amen. Je vous invite à la prière. Oui Seigneur, nous voulons vraiment fixer nos regards vers toi parce que tu es notre Dieu. Tu es le Créateur de l'univers. Tu es mon Dieu, mon roi. Je veux te suivre parce que je sais que tu restes toujours fidèle. Tu as conclu une nouvelle alliance à travers Jésus, Seigneur. Nous avons goûté cette grâce immense qui s'appelle le pardon des péchés. Nous sommes devenus fils de Dieu, lumière. Une petite lumière, Seigneur, pour répandre cette bonne nouvelle dans le monde. Seigneur, je revois encore la vie d'Othniel. Il t'aimait. Il voulait suivre la voie que tu as tracée devant lui. Que nous puissions vraiment, Seigneur, avoir cette pensée, cette même pensée pour toi, pour les autres, pour moi-même aussi. Que je puisse vraiment être aussi rempli de l'Esprit de Dieu pour vivre cette paix intérieure avec toi. Et aussi, Seigneur, pour avoir cette vie désireuse d'accomplir ta volonté. Dirige-nous. Sois le centre, le chef de ma vie personnelle, de ma famille aussi, Seigneur. J'aimerais encore revenir sur cette éducation que peut-être Caleb a dû sûrement faire à ses enfants. Seigneur, tu nous as confié aussi des enfants, ou peut-être des neveux, des nièces, que à travers notre vie exemplaire, modèle, nos enfants, la future génération, puisse vraiment te voir, qu'ils puissent avoir envie de te suivre à travers notre vie. Pour cela, nous avons besoin de toi, car nous avons pas mal de faiblesses. Que ton esprit nous remplisse, que tu nous aides, Seigneur, à marcher droit, peut-être sur ce chemin étroit, mais droit, Seigneur, pour toi. Au nom de Jésus. Amen.